À cette interview, je voudrais ajouter le récit que j'avais fait pour Madame Lefebvre, la mère de Reynold, sur des notes prises dès notre arrivée. Au début de la guerre, comme beaucoup de gens du Nord, nous avions évacué les centres pour des régions que l'on aurait cru moins exposées. C'est ainsi que dès 1939, avec mon frère, qui devait lui aussi connaître la glorieuse épopée des forces françaises libres, devins habitants d'un petit village de la côte, Formans-en-Plage, situé à 60 km au sud de Boulogne. Là devait nous surprendre l'invasion, de là devaient partir nos premiers pas vers la revanche. Déjà avant l'invasion, héritage de Ch'timi, nous haïssions les Boches. Dès leur arrivée, mon frère, qui à ce moment avait un peu plus de 17 ans et moi un peu plus de 15, nous organisions notre résistance dans la mesure de nos faibles moyens. L'appel du 18 juin du général de Gaulle et l'exploit de Mourzouk nous avaient fait frémir. Nous voulions, dès que ce serait possible, rejoindre les forces françaises libres. Nous ne voulions pas accepter d'être des vaincus. Très rapidement, pour nous, passionnés du canoë et de la mer, devait germer l'idée de partir tout droit au plus court, à travers la Manche, pour gagner l'Angleterre. À notre tour de garder au combat la place de notre père en 1914 et d'autre grand-père en 1870, le droit des Français debout. Et, en fiers enfants de Gaillan, notre géant national de Douai, nous commençâmes notre entraînement, cherchant toutes les possibilités, calculant tous les détails, nous endurcissant dans notre volonté de départ, écartant toutes les objections de notre famille, attendant avec impatience le moment propice. Après une mauvaise saison, je parle de l'été 1941, notre dernière occasion de départ devait se présenter. À la mi-septembre, nous étions fin prêts, nous avions une bonne équipe. Deux autres amis parisiens se trouvant à Formahon, dans les mêmes conditions que nous, avaient fait leur entraînement avec nous deux. Puis un jour, tombe du ciel, un bon garçon, qui venu seul de Saint-Denis, avait lui aussi pensé à la route de la Manche, le hasard nous fit rencontrer. Nous décidâmes de partir ensemble, Christian et Guy Richard, parisiens authentiques, Lefebvre de Saint-Denis, Pierre et Jean Lavoie de Douai. L'amiral, mon frère aîné, avait alors 19 ans. Le plus jeune en avait 15 et demi. J'en avais pour ma part 17. Les moyens, nous avions deux canoës canadiens en bois, dont un avait été réparé par nos soins. Nous avions des vivres, 15 boîtes de biscuits de soldats, 100 morceaux de sucre, 10 kilos de pain, un fusil et 45 cartouches en cas de mauvaise rencontre. Une idée de Reynold Lefebvre. Nous avions prévu le cas où l'un des canoës se retournerait et avions des ceintures de sauvetage. Nous envisagions de pouvoir en renflouer un éventuellement. Nous avions une voile par canoë et des paquets de secours. Le 16 septembre au soir, nous devions partir. Un des canoës se trouvait sur la plage, l'autre dans la cour de la villa en bordure de mer. Il faut avouer que par sécurité, nous n'avions prévenu personne de notre départ. À 21h, après la patrouille, nous nous détachions tous les cinq, ombre silencieuse, nous dirigeant avec les paquets vers le premier canoë, peu rassuré, le cœur pincé d'un sentiment que seul donne l'aventure, nous faufilant dans les zones apparemment les plus sombres, nous gagnions le premier canoë, nous portions au bord de l'eau. Puis, nous revenions chercher le second et l'emportions à son tour, après avoir traversé le cœur haletant, le glacis, guettant inquiet le poste allemand, qui est tout au plus à 150 mètres de nous. Nous sommes enfin à l'eau. Nous nous répartissons comme prévu dans les embarcations, enfin en route. La mer est phosphorescente, et les coups de paquet déclenchent des gerbes d'étincelles. Là-haut, Le petit poste de la Hutune ne bouge pas. La patrouille est passée il y a 10 minutes. Pourquoi se passerait-il quelque chose? Paguillon avec râle, s'éloigner, c'est se mettre en sûreté. Non, car les dunes faisaient écran contre le vent d'est, et maintenant la mer se creuse. L'eau en bas, il faut manier la casserole en guise d'écoute. Là-bas, derrière, on distingue la masse sombre des maisons. Nous devrions être bien au chaud, au lieu d'être aspergés par les vagues qui déferlent sans cesse sur nous. Nous distinguons dans la nuit d'encre la ligne des dunes, le cocos d'artillerie. Nous sommes enfin partis. Les premières difficultés sont vaincues. Nous hissons la voile, en avant. Les deux canoës se suivent. Bouchons ballottés par la mer, bouchons qui savent ce qu'ils veulent. La direction est prise, le cap sur les étoiles. Certes, nous sommes assez inconfortablement installés. Nous avons calculé 10 heures de navigation, et ce sera tout. Mais ce bruit, ces lumières, qu'est-ce? Nous baissons la voile. Il se rapproche. Nous n'avions pas prévu les vedettes. Elle se rapproche encore, un faisceau lumineux se promène. Par chance, nous sommes dans le creux de la vague. Il passe au-dessus. Les vedettes gauches s'éloignent. Ouf! La lueur diminue, s'estompe, s'éteint. Nous n'avons plus froid, nous étouffons. La voile est remontée, c'est fini. Nous nous dirigeons toujours sur notre étoile. Tous côtés, à part les vagues crêtées d'écume, le noir absolu. Mais ces lueurs là-bas, ces projecteurs, un bombardement, ce ne peut être que Boulogne. Mais alors, nous ouvrions simplement la côte. Immédiatement, nous sortons la boussole, la torche, vérifiant la direction. Nous avons fait une erreur, pas possible. Cependant, tout à l'heure, l'étoile donnait bien le cap. Oui, seulement si l'étoile polaire est immobile, le chariot de la petite ours tourne. C'est ce qui nous a mis dedans. Vérifiant le cap à la boussole périodiquement, nous reprenons notre cauchemar. La mer est toujours agitée. Adossée au mât, tout à l'avant du canoë, une étrange torpeur m'envahit et je sommeille, éclaboussé par les lames. Enfin, la mer se calme. On se sent moulu, si je puis dire. La nuit blanchit, l'eau vient. Nous regardons autour de nous, toujours la mer. Non, là-bas, légèrement à droite, sous les premiers rayons du soleil, resplendit comme un point brillant la côte de France. Ce doit être le Grinet. Et puis plus rien. Adieu la France. C'est fini. La mer, de l'eau, encore de l'eau, toujours de l'eau. Nous sommes joyeux. Le cauchemar est fini. La houle est assez faible, régulière. Le soleil réchauffe. Nous nous restaurons. Et à la voile et à la pagaie, nous continuons notre route. Soudain, un bon bruissement. Nos deux voiles tombent. C'est un boche, point d'erreur. Il ne nous a pas vus. Il s'éloigne. Lui aussi comme les vedettes de la nuit précédente. Nous n'oserons plus mettre la voile. Et à la pagaie, nous continuerons notre marche. Nous sommes pleins d'optimisme. Vers le nord, un cumulus de nuages apparaît, barre tout l'horizon. Ça ne peut être qu'une condensation annonçant la Terre. En effet, bientôt, vers midi, nous apercevons une plus sombre. Enfin, la Terre. Nous considérons la bataille comme gagnée. Nous avançons rapidement, arrêtant de temps en temps pour grignoter un biscuit, sucer un morceau de sucre, et même changer les équipages, remettant la voile, nous faisons des courses. La terre approche, les vents changent, les obligeant à rentrer les voiles. L'équipe du 2 est un peu fatiguée, nous prenons le 2 en mort. Après un temps, ils reprennent leur autonomie. Et la mer se durcit, le courant n'a pas l'air de nous être favorable. Si la côte est bien visible, plus moyen d'avancer. Il peut bien être 16 heures. Pendant 2 heures, nous luttons à tout prix. Jetons les vivres, le fusil, les cartouches, une voile par-dessus bord. Cependant, nous pouvons avancer. Après 2 heures de lutte, épuisés, nous décidons d'essayer de dévier sur notre gauche où semble se dessiner une baie. Nous allons essayer de nous glisser dans la baie où, espérons-nous, la mer sera plus calme. sur une mer vraiment déchaînée, à l'échelle de notre canoë, nous virons. Il est bien 18 heures. Tout à coup, apparaît un phare. Il va passer au-dessus de nous. Nous faisons des signaux. Il vibre. Il nous a vus. Nous allons être secourus. L'espoir nous redonne des forces. La mer, encore dure, est moins forte. Nous bondissons sur les vagues. Soudain, au loin, face à une falaise, une vedette. Elle a l'air d'appareiller, de venir vers nous. Elle vit. Et malgré nos signaux, elle s'éloigne. Est-ce fini? Un peu de courage. Nous continuons à pagayer. Soudain, au fond de la baie, un point noir. Ce doit être un canot automobile. Il vient vers nous. Faisons des signaux. Nous voit-il? Non. Nous aussi, tout le monde disparaît. C'est fini. La nuit tombe. Sur une étoile, nous regardons la direction. 3, 10 étoiles scintillent. Exténués, nous amarrons les deux canoës l'un à l'autre. Nous allongeons au fond dans le fond et sombrons dans le néant au bruit du clapotis des flots. Soudain un cri, les projecteurs. En effet, 3 projecteurs restent dans le ciel leur faisceau lumineux. S'il y a des projecteurs, il y a la Terre. En un tour de main, les canoës sont désamarrés et nous sommes à nouveau à pagayer avec ardeur dans la direction de l'espoir. Hélas, bientôt, un à un, les projecteurs s'éteignent. Encore quelque temps, nous nous dirigeons sur une étoile et comme les autres, elle nous trahit. Et rapprochant les esquifs, nous nous replongeons dans le néant. Quel est ce bruit étrange qu'on entend? Ce ne sert pas le bruit de l'eau sur notre canoë. Profond, plus sourd. L'un de nous lève la tête et s'écrie « Terre ! La Terre est tout près !» En effet, une magnifique falaise blanchâtre se découpe sur le ciel plus noir. Nous nous remettons en route. Le courant est dur. Nous devons trimer pour en sortir. Mais qu'est devenu notre canoë? Moins maniable que le nôtre, il part à la dérive. Nous partons à son secours. Nous prenons un remorque. Nous voilà sortis. La côte est là tout près. Doucement, nous évoluons entre les rochers. Nous y voilà. Terre. Nous ne sautons pas pour sans des cris de joie. Rien. Totalement épuisés, nous traînons les canoës contre la falaise. Chacun dans son coin de rocher, nous nous couchons et nous endormons. Quand nous nous réveillons, la mer est là toute proche. De la falaise qui est très haute, laissant un filet d'eau. Enfin, nous nous désaltérons. Sont bien piteuses. Au loin, un petit caninot sur pilotis. Une ville, n'en croyons pas nos yeux. Allons-nous faire une entrée triomphale en canoë dans le pays? Pour ma part, je retiens de jamais de ma vie remettre les pieds sur l'eau. Nous décidons que tandis que l'un des canoës suivra la côte, les autres, à pied, gagneront le village ou la ville. Arborant fièrement notre drapeau en haut du mât, le petit Canadien part en longeant la côte, la grande stupeur des Anglais. En marchant le long de la côte, nous rencontrons bientôt des ouvriers qui, après avoir regardé et vu notre drapeau, comprennent. Nous serrent vivement la main à grand renfort de discours auxquels nous ne comprenons rien. Ils nous emmènent par une échelle en haut de la falaise, nous offrent à boire et à manger, appellent un agent de service et téléphonent à la police station. Bientôt, arrive un quart, et nous voilà partis. Nous récupérons l'autre canoë et nous arrivons à la police station. Nous prenons une douche et réconfort. Nous commençons à être interrogés sur toutes les faces. Nous sommes conduits dans les bureaux de l'intelligence service. Là, tout fiers, nous signalons les emplacements de tous les ouvrages de la défense allemande que nous connaissons. C'est ainsi que nous constatons avec plaisir que nos nouvelles vieilles de 30 heures, nos nouvelles de gosses intéressent prodigieusement ces messieurs. D'entrée, nous pouvons dire que nous avons servi. Puis nous sommes présentés au général de Gaulle, celui à qui tous les Français devaient tous leurs espoirs. Nous reçoit dans son bureau de Carlton Garden. Il nous parle de la France, des Français libres, nous interroge sur nos voyages. Nous étions bien payés de paix. Puis, le lendemain, nous annonce que nous allions voir un important personnage britannique. Quelle ne fut pas notre surprise d'être reçu par le premier ministre britannique quand les ambassadeurs, ambassadeur de la jeune France, celle qui n'avait pas été vaincue. Voilà le frais visage de la France, Monsieur Churchill. Lui aussi, en un français pénible mais correct, nous interroge sur la France, puisque finalement Churchill nous fit même visiter la salle du Conseil des ministres. C'était le 22 septembre 1941, au 10 Downing Street, à Londres. Mon frère s'engagea dans la marine française libre. Les quatre que nous étions entrons à l'école des cadets. Là était le visage de la vraie France, comme avait dit M. Churchill. Cadet de la France libre, qu'êtes-vous devenu? Sur tous les champs de bataille, vous vous êtes battu, comme mon très cher camarade, le sous-lieutenant Lefebvre de Saint-Denis, qui mourait le 17 janvier 1945, à l'âge de 20 ans, dans les plaines d'Alsace, près d'Auborne-Bernay, pour ne pas vouloir exposer ses hommes qui voulaient le relever, alors qu'il avait été blessé gravement au cours d'un bombardement. Le petit cadet que le général aimait bien